Avoir raison avec Élisée Reclus, Marie-Lise de Saint-Salvi.
Géographe prolixe et anarchiste influent, Élisée Reclus est aussi remarquée pour son souci de la nature qui traverse ses écrits tout au long de sa vie. Dans ce quatrième épisode d'Avoir raison avec Élisée Reclus, il ne sera pas encore question d'écologie au risque de tomber dans l'anachronisme, mais il s'agira bien de réfléchir à l'action de l'homme sur la nature. C'est à cet idéal de coexistence entre l'homme et son milieu qu'Élisée Reclus consacre les dernières années de sa vie alors qu'il s'installe en Belgique et qu'il rédige son ultime ouvrage présenté comme l'aboutissement de son œuvre « L'homme et la terre ». Mais quelle est, selon Élisée Reclus, la place de l'homme sur la terre ?
Ce n'est jamais sans émotion que je contemple dans le salon de l'Université Nouvelle de Bruxelles le grand tableau représentant Élisée Reclus. Quelle noblesse dans cette figure encadrée par une longue chevelure, dans ce sourire un peu triste, noyé dans une barbe de patriarche, dans ces yeux qui illuminent encore la candeur émerveillée de la jeunesse, dans ce front large et vaste, tout rempli des plus grandes richesses du savoir, de la pensée et d'une idéale espérance.
Bonjour Valérie Chansigaud.
Bonjour.
Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire Sphère. Vous avez notamment signé une présentation de l'histoire d'un ruisseau suivie du sentiment de la nature dans les sociétés modernes d'Élisée Reclus, parue en 2023 aux éditions du Pommier. Avant de commencer à décrire la réflexion que porte Élisée Reclus sur les liens entre l'homme et la nature, je voudrais que vous nous racontiez les dernières années de sa vie en Belgique. Comment finit-il sa carrière de géographie ?
Alors, il faut se rappeler qu'Élisée Reclus a passé l'essentiel de sa vie d'adulte à l'étranger, car il a été régulièrement poursuivi, mis à mal par les lois adoptées en France, la répression politique, et il se réfugiait à l'étranger pour sauvegarder sa liberté. Il était revenu en France et il va partir en Belgique suite à l'adoption d'un nouveau ensemble de lois dites scélérates qui visait la répression du mouvement anarchiste. Il faut dire que les attentats se multiplient, c'est l'occasion, voire le prétexte qu'adopte l'État pour réprimer un mouvement qui était extrêmement populaire en France. On estime de façon assez floue qu'il y a à la fin du 19e siècle environ 100 000 sympathisants de l'anarchisme en France, qui est tout à fait considérable. Donc, Élisée Reclus, après avoir passé partie de sa vie en Suisse, s'installe en Belgique et les personnes autour de lui cherchent à lui donner un poste à l'Université libre de Belgique, mais les responsables de l'autorité s'y opposent, pas tant pour son caractère géographe que son caractère anarchiste. Et en fait, on va créer une université presque pour lui, à savoir l'Université Nouvelle.
À l'Université Nouvelle de Bruxelles, où donc il donne quelques cours, il a quand même quelques élèves, et pourtant, l'enseignement de sa géographie ne perdurera pas après sa mort. C'est qu'en fait, il va vite tomber dans l'oubli.
Alors, ce qui pourrait paraître assez logique pour un anarchiste, il se pense jamais comme maître. Il est jamais le professeur qui enseigne, il va jamais chercher à faire école. Il donne sa pensée, il donne ses réflexions, mais jamais en cherchant à instituer cette pensée et ces réflexions comme une sorte d'institutions, notamment universitaires. Il faut dire que l'université n'est pas non plus très favorable à sa venue. Pour lui, peu importe, il pense que les idées, de toute façon, n'ont pas besoin d'être transmises de façon, en quelque sorte, hiérarchique. Ça peut se diffuser dans la société. Et en fait, à sa mort, effectivement, il n'a pas d'élèves. Et puis survient, quelques années après, un autre événement qui va marquer la fin de la popularité des idées anarchistes en France, à savoir la Première Guerre mondiale. Et ces deux événements cumulés font qu'il n'a grosso modo aucune descendance, d'autant qu'en France, on a d'autres écoles de géographie assez éloignées de sa pensée qui vont, elles, connaître un succès considérable, notamment autour de Vidal de Lablache.
Et je précise aussi qu'il est mort en anarchiste dans le sens où il a demandé à être enterré dans une fosse commune, donc au milieu du peuple. Il meurt en 1905. Pendant ces dernières années, il rédige son œuvre la plus monumentale peut-être, son œuvre testamentaire, qui est L'homme et la terre. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette œuvre ?
C'est un ensemble extrêmement riche où il va vraiment condenser en six volumes sa perception du globe, sa géographie et son histoire, en sachant que c'est un livre profondément marqué par un regard historique. Jusqu'alors, on le connaissait comme géographe ayant un petit, comment dire, un attrait pour l'histoire. C'est toujours les faits qu'il présente tout au long de son œuvre sont toujours situés temporellement. Mais là, il va vraiment faire la liaison entre l'histoire et la géographie, qu'il va d'ailleurs résumer avec une petite phrase au début de son livre. La géographie, c'est l'histoire dans l'espace, et l'histoire, c'est la géographie dans le temps, ce qui est une magnifique formule.
Et qu'on va entendre tout de suite.
Toutes les individualités géographiques de la Terre, en leur variété infinie de nature, de phénomènes et d'aspects, portent les marques du travail des forces toujours à l'œuvre pour les modifier. À son tour, chacune de ces formes terrestres est devenue, dès son apparition et continue d'être, dans tout le cours de son existence, la cause secondaire des changements qui se produisent dans la vie des êtres nés de la Terre. Vu de haut, dans ses rapports avec l'homme, la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, de même que l'histoire est la géographie dans le temps. Ne peut-on pas dire également que l'homme est la nature prenant conscience d'elle-même ?
Nous venons d'entendre l'ouverture de L'homme et la Terre, qui est donc une introduction à sa démarche scientifique, qui consiste à associer l'histoire et la géographie. Valérie Chansigo, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer donc cette méthode-là ?
Alors, il y a une expression qu'on vient d'entendre qui est cette notion d'évolution. Il faut savoir qu'Élisée Reclus, comme d'ailleurs un autre géographe anarchiste de ses amis, Pierre Kropotkin, tous les deux sont très influencés par la pensée de Charles Darwin. Et ils pensent que ce désir de progrès, et notamment de progrès social, d'égalité, est quelque chose, en quelque sorte, qui s'inscrit dans l'évolution même de l'humanité. Et il y a vraiment cette dimension évolutive. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est que l'évolution ? C'est l'histoire de la planète et des organismes vivants qui vivent sur cette planète. C'est ça, l'évolution, fondamentalement. C'est le temps. C'est le passage du temps. Autrement dit, quand il va examiner les différents continents, les peuples qui y vivent, les relations qu'ils ont avec leur milieu, à chaque fois, il y aura cette notion, cette réflexion sur qu'est-ce qui est en train de se passer, cette histoire qui est en train de se dérouler. Et c'est ça qui caractérise peut-être le plus sa démarche. C'est pas un cadre extrêmement formel, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a une interrelation profonde entre la Terre, la planète, les organismes vivants qui la peuvent, l'humanité, bien évidemment, et le passage du temps.
Oui, c'est un point de vue qu'il faut, je pense, distinguer du déterminisme, qui serait de dire que l'homme est construit à partir de son environnement. Là, c'est pas ce que nous dit Élisée Reclus.
Alors, chez Reclus, c'est pour ça qu'il se distingue de ce déterminisme. Le déterministe dit qu'il y a effectivement une influence du milieu sur les populations humaines qui déterminent leur construction, leur pensée, leur capacité. Pour Élisée Reclus, c'est un anarchiste, l'élément de liberté est absolument essentiel. Certes, la nature nous entoure, nous faisons partie de la nature, nous sommes la nature, mais suivant sa formule, c'est la nature prenant conscience d'elle-même, c'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité de réflexion, de libre arbitre par rapport à cette nature. Certes, il y a des influences, mais le libre arbitre fait que l'être humain est libre de construire le monde qu'il souhaite.
Alors, ce que vous dites sur le progrès est intéressant parce que c'est une notion que Élisée Reclus a beaucoup travaillée en l'associant à une autre notion qu'il a plus ou moins inventée, je crois, qui est celle de regret.
Tout à fait. Alors, le mot n'est pas de lui, mais il l'utilise à diverses occasions. Et de toute façon, même quand il ne l'utilise pas, son idée est derrière. C'est que Il est optimiste, certes, mais pas un optimisme béat. C'est-à-dire, pour lui, dans les progrès techniques, progrès sociaux que l'on peut voir, il peut y avoir des dimensions dites de regret, en fait de progrès négatifs. L'industrie a permis aux êtres humains de vivre mieux, mais en même temps, il a asservi les travailleurs dans des conditions absolument ignobles de travail et de vie. Et donc, il a une vision à chaque fois qu'il cherche à rendre équilibré, en soulignant les qualités, mais également les défauts des évolutions humaines.
Et est-ce qu'il dresse une hiérarchie entre l'homme et la nature ? Est-ce que l'un passe avant l'autre ?
Pas vraiment. C'est à multiples occasions, dans ce livre et dans d'autres textes qu'il aura signés, c'est vraiment une idée que nous avons... Comment dire ? Il y a une idée de solidarité qui est absolument essentielle, solidarité entre les êtres humains, mais solidarité aussi avec les autres organismes vivants. Il était végétarien, il était vraiment très sensible à la souffrance animale, à la cause animale, comme on dirait aujourd'hui, mais également à la planète elle-même. Cette solidarité, ça, c'est aussi une notion propre à l'anarchisme qui définit vraiment la liberté comme... celle qui commence par celle de l'autre. C'est-à-dire, j'ai besoin de la liberté d'autrui pour réaliser la mienne. Et en fait, dans cet autrui, pour Reclus, il y a encore une fois tous les organismes vivants, mais également la planète.
Alors, avant de continuer à déployer cette pensée autour de l'action que l'homme peut avoir sur la nature, je voudrais quand même qu'on précise quelque chose. Élisée Reclus est souvent présentée comme un pionnier de l'écologie. Et là, il faut faire très attention parce que le terme écologie est ambivalent à l'époque.
Alors, il a été inventé par Ernst Haeckel dans les années 1860, très vite traduit en français dans des articles qui vont circuler, qui vont être lus. Et Ernst Haeckel est un biologiste allemand, champion du darwinisme. Et il va avoir une lecture d'ailleurs assez particulière du darwinisme d'un point de vue social, on pourra y revenir. Et il invente ce terme d'écologie parce que pour lui, depuis Charles Darwin, on est obligé de faire de l'histoire naturelle autrement. L'histoire naturelle ne peut plus être simplement la destruction des organismes vivants. L'histoire naturelle doit être la description des lois qui expliquent cette évolution, notamment la sélection naturelle émise par Charles Darwin. Le terme est connu par Élisée Reclus. Il ne va pas l'utiliser certainement parce que Haeckel est un conservateur vraiment suprémaciste blanc. Enfin, c'est quelqu'un qui est très marqué politiquement, d'autant que cette politique se trouve dans ses ouvrages scientifiques. Et il ne va pas du tout utiliser ce terme. Le terme écologie, en plus, à cette époque, à son époque, ne désigne qu'une science extrêmement embryonnaire. Il va falloir attendre les années 1910-1920 pour qu'elle s'implante comme science bien avant de devenir l'expression d'un mouvement politique. Autrement dit, désigner la pensée de Reclus par le terme d'écologie, ça vise... Enfin, c'est un raccourci qui est gênant parce que justement c'est un raccourci qui gomme beaucoup de choses.
Voici donc la question sociale qui se pose de nouveau et dans toute son ampleur. Il est impossible d'aimer pleinement le sauvage primitif dans son milieu naturel d'arbres et de ruisseaux si l'on n'aime pas en même temps les hommes de la société plus ou moins artificielle du monde contemporain. Comment admirer, aimer la petite individualité charmante de la fleur ? Comment se sentir frère avec l'animal, se diriger vers lui, comme le faisait François d'Assise, quand on ne voit pas aussi dans les hommes de chers compagnons ? À moins pourtant qu'on ne les fuit à force d'amour afin d'éviter les blessures morales qui viennent du haineux, de l'hypocrite ou de l'indifférent. L'union plénière du civilisé avec le sauvage et avec la nature ne peut se faire que par la destruction des frontières entre les castes, aussi bien que par celle des frontières entre les peuples. Il faut que, sans obéir à d'anciennes conventions et habitudes, tout individu puisse s'adresser à n'importe lequel de ses égaux en toute fraternité et causer librement avec lui de tout ce qui est humain, comme disait Terence. La vie, revenue à sa première simplicité, comporte par cela même pleine et cordiale liberté de commerce avec les hommes.
France Culture, avoir raison avec Élisée Reclus. Marie-Lise de Saint-Salvi.
Nous venons d'entendre un extrait de L'Homme et la Terre, issu du sixième tome, publié en 1908. Valérie Chansigaud, d'après ce texte, quelle vision de l'homme porte Élisée Reclus ?
Le mot peut-être qui vient le plus spontanément, c'est vraiment cette idée de solidarité, de dépendance extrême. C'est-à-dire l'individu n'est pas nié en tant que tel, mais sa liberté participe toujours de celle des autres. Il y a toujours encore cette relation extrêmement forte. Et il souligne à quel point il faut abolir les divisions sociales, les divisions de classe ou de caste. Mais également, il va même un peu plus loin en suggérant que l'être humain ne doit pas se penser, réfléchir comme un élément externe à la nature. Il est un élément de nature, il est la nature. Mais il n'est pas la nature pour pouvoir en être le tyran. Il en est vraiment, il fait partie de cette nature et les relations que l'on peut imaginer doivent se baser, c'est vraiment un projet qu'il exprime, de façon solidaire, de façon sympathique ou aimable. Il y a en fait de l'amitié dans ces relations.
Oui, on comprend qu'Élisée Reclus pense les rapports de domination entre les hommes, les rapports de domination entre l'homme et la nature. Et il parle beaucoup de mise en valeur de la nature. En quoi ça consiste ?
Alors, comme il ne sépare pas l'être humain de la nature, qui serait une sorte d'entité externe, et qu'il est extrêmement optimiste sur les capacités de l'être humain à évoluer de façon positive vers plus de justice sociale, pour lui, l'action sur la nature n'est pas forcément destructrice. Si elle se fait avec intelligence, avec respect, dans le but justement de produire plus de solidarité, d'égalité, il conçoit qu'on peut agir sur la nature, par exemple en produisant des ressources alimentaires, mais ça peut aller beaucoup plus loin que cela, sans pour autant ni détruire la nature, ni assujettir les êtres humains. Il y a cette idée que cette relation avec la nature n'est pas une sorte de contemplation où la nature est extérieure et qu'il faut surtout pas la toucher. Elle fait partie, quelque part, de l'humanité. Et que pour se réaliser, pour vivre, l'être humain a besoin d'agir sur cette nature.
Et d'ailleurs, Élisée Reclus s'intéresse beaucoup à l'agriculture. Il a notamment géré une exploitation lorsqu'il était en Irlande en 1852. Il va essayer de monter, pareil, une exploitation agricole quand il sera en Colombie. Ce sera un échec pour lui. Qu'est-ce que représente l'agriculture dans les sociétés humaines pour Élisée Reclus ?
Alors, c'est pas que pour Élisée Reclus, mais d'une façon générale pour les anarchistes. Kropotkine, par exemple, était exilé à Londres. Il était très fier, pour chaque fois qu'on venait lui rendre visite, de montrer son jardin dont il tirait une grande partie de sa nourriture. Cette relation à l'agriculture, on peut l'interpréter comme un élément assez déterminant de l'anarchisme, qui est la dimension de l'action. C'est-à-dire, l'anarchisme tourne le dos aux dimensions théoriques. C'est vraiment pas ça qui intéresse les anarchistes. C'est l'action. C'est le fait d'agir. Et dans L'Homme et la Nature, il y a de nombreux passages où il vante cette capacité d'action et d'agir. Quelque chose qui va être repris, par exemple, par le mouvement punk, en tout cas la frange anarchiste du mouvement punk, dans la notion « fais-le toi-même ». On a envie de quelque chose, on le fait. Et l'agriculture est une façon de faire les choses, une façon d'avoir une relation au monde. Il s'agit pas, il faut vraiment insister là-dessus. Élisée Reclus n'est jamais béat, ni devant la nature, ni devant l'agriculture. Il sait à quel point les métiers de la terre peuvent être durs et usants. Mais il y a quelque chose de beau dans le fait de produire sa nourriture en respectant, bien sûr, la terre et les autres êtres humains. Et ça fait vraiment partie de l'âme du projet anarchiste dont il est l'un des représentants.
Et est-ce qu'on peut se dire à ce titre-là qu'il pense aussi l'idée de développement durable ?
Oui, il n'est pas le seul à avoir des formulations comme ça, pas cette formulation-là, mais cet esprit-là, cette idée qu'il y a des générations futures. Mais ça, il faut là aussi se méfier des anachronismes ou des lectures trop appuyées, parce que d'autres personnes qui ne sont pas du tout anarchistes, je pense au président américain Theodore Roosevelt, qui au moment de sa mort, va, dans des discours, faire référence au respect que l'on doit aux générations futures dans la gestion des ressources naturelles. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que la pensée d'Élisée Reclus, mais évidemment, il va réfléchir à cette notion, c'est-à-dire que l'idée de détruire les ressources naturelles, détruire la Terre pour en tirer un profit immédiat, c'est quelque chose qui est assez éloigné de Reclus, des anarchistes en général.
Donc Élisée Reclus s'intéresse à la nature, on l'a dit. On peut quand même remarquer que dans ses descriptions des paysages, de la nature donc, il y a un gros aspect. Voilà, il y a beaucoup de lyrisme, il y a beaucoup de place à la beauté des paysages. Est-ce qu'il n'a pas aussi une vision un peu romantique ?
Alors, si le romantisme peut être défini comme ça, je dirais oui. En fait, Reclus, c'est peut-être son expérience dans les pays anglo-saxons, sa culture qui est bien plus large que la culture française. Enfin, c'est une culture vraiment internationale, voire internationaliste. Et il a une vision du contact avec la nature qui est là aussi assez commune à son époque dans les pays anglo-saxons ou germanophones. Le contact avec la nature n'est pas simplement quelque chose que l'on admire, c'est quelque chose qui, par sa beauté, par sa dimension profondément diverse, peut transformer l'individu qui regarde cette nature. Il y a, c'est pas qu'une contemplation, c'est une révélation. Quelque part. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation personnelle. Et ça, c'est une idée, encore une fois, qui est extrêmement banale en cette fin du 19e, début 20e, moins en France qu'ailleurs, ça c'est clair, mais c'est quelque chose d'assez commun. Et clairement, dans ces textes, que ce soit l'histoire d'une montagne ou d'un ruisseau, ou l'homme et la terre, on va retrouver cette notion que la nature, c'est pas simplement que quelque chose de beau, d'extrêmement complexe et merveilleux à étudier et à observer, c'est quelque chose qui, quelque part, peut transformer l'individu que l'on est.
Alors là, je vais introduire un nouvel anachronisme. Il s'agit de l'anthropocène, parce qu'on peut aussi régulièrement lire que Élisée Reclus avait cette intuition-là, que si on continue comme ça, si la mondialisation se poursuit, le capitalisme, on va finir par détruire la nature.
Alors, il y a un Américain avec qui il a été en relation épistolaire, qui s'appelle George Perkins Marsh, qui, au milieu du 19e, fait paraître le premier livre qui présente l'humanité comme un facteur géologique, ce qui est la base même de l'anthropocène. Et il va présenter ce livre au lecteur français dans un article. Il songe à le préfacer, la traduction qui se fera malheureusement pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette vision comme de l'humanité comme facteur de transformation géologique de la planète, qui, encore une fois, c'est la définition même de l'anthropocène, on se base sur sa date de début, mais en fait, fondamentalement, c'est ça. C'est quelque chose qu'on va retrouver à maintes reprises chez Reclus. Et la différence entre Marsh et Reclus, il le dit dans une lettre, c'est que lui reste optimiste. Il pense que les changements sont toujours possibles. Sa lecture fait vraiment beaucoup de bien. C'est-à-dire, si on est déprimé en ces temps quand même assez difficiles, je recommande quand même la lecture d'Élisée Reclus, à la fois par ses principes et par cette force qui se dégage des écrits de cet homme.
Oui, et il encourage aussi énormément les hommes à découvrir la nature. Il a notamment poussé le tourisme. On retrouve des écrits où il incite les individus urbains vivant dans les villes à aller en montagne pour voir d'un peu plus près de quoi on parle.
Mais ça, encore une fois, c'est pas propre à la pensée réclusienne. C'est vraiment son époque. Son époque, on trouve des centaines d'exemples à peu près similaires. Ce qui est peut-être un peu particulier chez lui, c'est toujours cette vision de la nature de façon assez positive, mais reliée avec une réflexion sociale, c'est-à-dire l'éloge lyrique qu'il fait de la nature, eh bien, il y a toujours derrière, à un moment, une phrase, un élément de pensée qui le rattache à la question sociale. C'est jamais séparé et c'est pas séparable chez lui. Ça le distingue effectivement de son temps, mais pas tant en fait son émerveillement par rapport à la nature ou ce souci devant la destruction de la nature qu'on voit déjà à cette époque.
Pourtant, on peut peut-être noter une contradiction dans cette pensée-là qui serait l'action coloniale. Il a une manière de penser les colonies qui est en fait assez limitée et peu aboutie quand on voit à quel point il peut penser l'action de l'homme sur la nature.
Oui, on lui a reproché notamment de manquer de finesse d'analyse, par exemple, sur le cas de l'Algérie, qui est colonisée par les Français. Il ne faut pas non plus surestimer cela dans son œuvre. Je veux dire, il ne justifie pas du tout le colonialisme, loin de là. Il a des mots très, très tendres et très forts en faveur de... Je vais employer un mot de l'époque, les primitifs. Mais simplement, c'est vrai qu'il ne va pas développer, une pensée strictement anticoloniale telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Mais là aussi, il faut se méfier des lectures anachroniques, parce que de toute façon, il attaque le fait colonial par ailleurs. Simplement, il y a des circonstances où effectivement, il manque un peu de clairvoyance par rapport à des choses qui lui échappent, c'est vrai.
Oui, et je rappelle qu'il se rend régulièrement en Algérie, puisque sa fille est installée avec son mari. Et pour revenir sur les peuples primitifs, je rappelle aussi que son frère Élie est anthropologue et qu'il s'est intéressé de près à cette question-là.
Et qu'il va largement contribuer à produire un discours, pour le coup, contraire au discours raciste de l'époque, où il fait l'éloge de la diversité et de la richesse des peuples dits primitifs, pour employer encore une fois cette expression de l'époque. Il va vraiment avoir une vision extrêmement critique. Élisée Reclus n'en est pas non plus très très loin. Hein. Faut pas. C'est des choses qui sont compliquées parce que c'est vraiment une question de dosage.
Et merci à Valérie Chansigaud. Je rappelle que vous êtes historienne des sciences de l'environnement et chercheuse associée au laboratoire Sphère. Vous avez notamment signé une présentation de l'histoire d'un ruisseau suivi du sentiment de la nature dans les sociétés modernes d'Élisée Reclus, paru en 2023 dans la collection Les pionniers de l'écologie aux éditions du Pommier. Je cite aussi parmi vos ouvrages Les combats pour la nature, de la protection de la nature au progrès social, paru en 2018 chez Buchet-Chastel, et enfin Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour, paru chez Actes Sud en 2016. Je remercie Merci aussi Nicolas Berger pour ses lectures. À la réalisation, c'était Daphné Leblond. À la technique, Jordan Fuentes. Et on se quitte sur une chanson de Duran Duran, Planet Earth. Le prochain et dernier épisode sera consacré à la poésie d'Élisée Reclus et à son approche sensible de la géographie.